Il y a quelques semaines de cela, avant l'été même, dans nos lectures quotidiennes, Laura et moi, nous nous sommes arrêtés sur ce livre de Job, dont on vient de lire à l'instant quelques extraits assez détonnants. Et le moins que l'on puisse dire, je ne sais pas pour vous, mais c'est qu'à chaque fois qu'on se plonge un peu dans ces textes, je trouve qu'on en ressort toujours mal à l'aise. Mal à l'aise à la vue de cet homme, si fidèle, qui perd vraiment tout. Mal à l'aise devant ce drôle de pari qui semble se jouer entre Dieu et Satan, et que Job subit de plein fouet. Mal à l'aise encore devant la façon dont Job ose parler à Dieu, et on a pu s'en rendre compte. Mal à l'aise aussi peut-être face à la réponse de Dieu à Job, qui ne lui répond pas vraiment en fait. Mal à l'aise enfin peut-être devant la conclusion de cette histoire, un peu trop happy end à notre goût, pour correspondre à la réalité. Oui, un drôle de livre qui nous met mal à l'aise, sans doute tout simplement parce qu'il vient aborder de manière abrupte, directe et sans concession la question tellement épineuse de la souffrance et des causes de la souffrance. Dieu, la souffrance et Job, qui m'amène inévitablement à Dieu, la souffrance et moi. Combien il est complexe d'aborder cette question de la souffrance, tellement elle nous prend aux tripes quand on y est confronté d'une manière ou d'une autre. Et combien même il peut sembler présomptueux de vouloir en parler ici sur l'estrade avec plus ou moins de légèreté quand d'autres sont en train de la vivre si intensément. Nous voici devant un thème délicat, mais pourtant nous voici devant un thème que nous ne pouvons pas laisser de côté parce qu'il représente un tel défi, un tel enjeu pour le christianisme. Avec cette question essentielle, la foi chrétienne a-t-elle quelque chose à nous dire sur la souffrance? Et Dieu a-t-il quelque chose à nous dire sur la souffrance? Car devant l'affirmation d'un Dieu infiniment bon et tout-puissant d'un côté, et la réalité du mal et de la souffrance de l'autre côté, quelque chose doit être dit. Qui parmi nous, d'ailleurs, n'a pas un jour entendu cette question? Mais si Dieu existe vraiment, pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Ou comment concilier l'existence de Dieu et celle de la souffrance? Comment concilier la toute-puissance et la bonté de Dieu avec la réalité de la souffrance? Cette question s'impose. Si Dieu est parfaitement bon, pourquoi ne veut-il pas supprimer la souffrance? Si Dieu est parfaitement tout-puissant, pourquoi ne peut-il pas supprimer la souffrance? Et s'il le veut et le peut, eh bien, pourquoi ne le fait-il pas? Pas facile de répondre à ça, n'est-ce pas? Que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Et il nous faudra d'ailleurs faire attention devant de telles questions, devant de telles interrogations, à toute réponse un petit peu hâtive, simpliste ou réductrice qui ferait plus de dégâts qu'autre chose. Et ceux qui connaissent le livre de Job savent que les amis de Job sont bien placés pour le savoir avec leurs réponses toute faite. Mais on ne va pas leur jeter la pierre parce que ce n'est pas limité à eux de telles réponses. Je vous en donne une autre illustration de choses qu'on peut entendre parfois, à travers l'exemple d'une catastrophe parmi tant d'autres. Nous sommes le 1er novembre 1755 à Lisbonne quand un tremblement de terre se produit, avec comme effet secondaire un incendie et un raz-de-marée qui viennent anéantir la majeure partie de la ville. 15 000 personnes meurent en moins de 6 minutes et 15 000 autres agonisent pendant plusieurs jours. Un événement dont on est, malheureusement, un type d'événement dont on est habitué. Et alors, à la suite de cette catastrophe, Alexander Pope, un philosophe catholique anglais, écrit un essai pour tenter une réponse qui viendrait essayer de concilier, à travers cet événement, à la fois Dieu et la souffrance. Et alors dans cet essai, il affirme « Une vérité s'impose, tout ce qui est bien. » rude, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire d'une telle réponse? En tout cas, et la suite de l'histoire le dit, elle n'était pas satisfaisante pour Voltaire, qui, lui, profondément marqué par cette catastrophe, va s'insurger contre de telles affirmations et va exprimer sa révolte dans un poème qu'il écrit. Parce que non, on ne peut pas se contenter de cela. Et ce refrain lancinant persiste encore et encore. Pourquoi? Pourquoi, si Dieu est à la fois souverain, tout-puissant, juste et bon, pourquoi souffrons-nous de telles choses? Alors, en toute honnêteté, je pense que nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de vraie réponse, en tout cas comme on le voudrait, à cette question, que la Bible ne répond pas vraiment à ce pourquoi. D'ailleurs, Job ne l'aura pas, sa réponse, malgré ses presque 40 chapitres de réclamations. Pas plus d'ailleurs que les familles des 18 personnes qui sont mortes lors de la chute de la tour de Siloé. C'est une histoire qu'on trouve aussi dans l'Évangile. Jésus ne leur donnera pas de réponse à leur pourquoi. Et ça, ça peut venir nous frustrer. Ça peut venir même nous mettre en colère, de ne pas arriver à comprendre ce pourquoi. Et puisqu'il ne veut manifestement pas nous le donner, Dieu, le pourquoi, alors le pas est vite franchi dans nos têtes, pour finir par le voir comme quelqu'un ou bien qui n'en a rien à faire de nos souffrances, ou bien qui ne peut rien y faire. Je ne sais pas quel est le pire. Mais cela ne peut pas être le cas. Et même si elle ne nous répond pas comme on le voudrait, je crois que la Bible a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Des choses qui vont venir nous montrer que cette réalité de la souffrance, eh bien, elle n'altère en rien la parfaite bonté et toute puissance de Dieu, au contraire même peut-être. Et à travers ce matin, à travers ce temps ce matin, c'est ce que je voudrais vous inviter à creuser, sans avoir bien sûr la prétention de faire le tour de la question, mais à creuser quand même. Qu'est-ce que Dieu a à me dire sur la souffrance? Comment se situe-t-il, lui, par rapport à cela? Dieu, la souffrance et moi. Et dans cette optique, je vous invite d'abord à voir quelques généralités, entre guillemets, avant de regarder les réponses que Dieu nous fait à ces questions. La première chose qui nous dérange quand on aborde la question de la souffrance, et plus généralement d'ailleurs celle du mal qui englobe la souffrance, est le problème de son origine. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cette possibilité-là existe? C'est vrai, quoi. Alors, on touche à des questions un petit peu philosophiques, voire existentielles, ici. Et du coup, je vais laisser la parole à un philosophe, un jeune philosophe chrétien qui s'appelle Alexis Masson et qui apporte, je trouve, sur cette question de l'existence du mal et donc de la souffrance, une réponse un peu étonnante peut-être, mais qui a le mérite d'être intéressante. Je vous en cite juste un extrait, et si vous êtes intéressé par la version complète, vous pouvez la trouver sur un très bon site qui s'appelle comprendredieu.com. Essayons de suivre la pensée de cet homme. Un monde, dit-il, dans lequel le mal aurait été impossible, aurait été un monde moins parfait. Un peu gonflé, hein ? Mais il s'explique. Car un monde dans lequel le mal serait impossible serait un monde dépourvu de liberté. Si le mal était impossible, alors les hommes n'auraient pas de choix à faire entre le bien et le mal, et par conséquent, ils ne seraient ni libres, ni moraux, ni responsables. Plus encore, dit-il, dans un tel monde, l'amour serait impossible. Parce que l'amour, par opposition au viol, implique le consentement, et donc la liberté des partenaires. Parce que Dieu aime les hommes, il les a donc voulus libres, et par conséquent, capable du mal. En ayant la possibilité de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les hommes ont eu ainsi la possibilité de choisir la voie de la rébellion contre Dieu. Dans un monde dans lequel le mal serait impossible, il serait impossible de faire le choix libre de vivre dans la communion avec Dieu et donc de vivre une relation d'amour avec lui. Et il conclut en disant « L'amour et la liberté sont les biens supérieurs qui nécessitait la possibilité du mal. Alexis Masson, l'amour et la liberté sont les biens supérieurs qui nécessitaient la possibilité du mal. Une affirmation, certes, un petit peu osée, mais pas dénuée de pertinence. Et je crois qu'on comprend bien le message qu'il essaie de nous faire passer ici. C'est une première réalité. Mais alors, malgré tout, ce qui nous gêne un petit peu devant de telles affirmations, c'est qu'elles pourraient quand même finir par nous laisser penser que la souffrance, eh bien, elle fait finalement un petit peu partie du plan de Dieu. Or, bien sûr, et d'ailleurs l'auteur ne dit pas autre chose, ce n'est absolument pas le cas. Même si Dieu la permet pour un bien plus grand qu'est l'amour et la liberté. Même si Dieu peut s'en servir. Même si Dieu peut transformer le mal en bien et faire en sorte que quelque chose de bon puisse ressortir de la souffrance, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'elle ne fait jamais partie de sa volonté. Et je crois qu'il nous faut pouvoir l'affirmer sans ambiguïté avant même d'aller plus loin. Il n'y a rien de bon dans la souffrance. Et par conséquent, elle ne peut pas être la volonté ou le désir de Dieu. D'ailleurs, on remarquera que quand Dieu crée la terre et tout ce qui s'y trouve, et qu'il déclare que tout était bon, eh bien la souffrance et le mal ne sont pas encore là. Parce que la souffrance n'est jamais bonne. Elle n'est qu'une épine, une écharde dans notre chair. Elle est la conséquence du péché qui est entré après la création. C'est notre deuxième réalité. Et on continue. La souffrance, on l'a dit, conséquence du péché en général, mais aussi bien souvent conséquence directe du péché de l'homme. C'est une autre généralité qu'on peut aborder. Parce qu'on a quand même vite fait d'accuser Dieu devant le mal et la souffrance. Mais parfois, c'est un peu trop facile et nous devons bien reconnaître que bien souvent, elle est seulement du fait de l'homme libre de ses choix et donc libre de faire le mal. Des enfants marqués à vie par l'égoïsme et le manque d'amour de leurs parents, aux pauvres victimes d'injustices économiques de toutes sortes, en passant par les réfugiés qui perdent tout dans des guerres sordides où ils n'ont rien demandé. La liste est infinie, je vous la laisse compléter. C.S. Lewis estime que 80% des souffrances sur la Terre sont dues directement au péché de l'homme. Hugh Sylvester, lui, va jusqu'à 95%. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs. Mais c'est en tout cas une réalité indéniable. Le mal de l'homme est directement responsable de la grande majorité des souffrances. Et il nous faut aussi pouvoir le dire avant d'accuser Dieu. Mais alors, bien sûr, et j'en arrive à une dernière généralité, que penser du pourcentage restant ? Que penser des catastrophes naturelles, par exemple, ou des maladies incurables ? Est-ce aussi la faute de l'homme ? En partie peut-être au vu de notre mauvaise gestion de la planète, mais pas seulement, et le raccourci que l'on ferait ici serait bien trop court. Alors, pourquoi Dieu permet-il ces choses qui font tant de mal ? Difficile de répondre à cela, bien sûr. Peut-être pourrons-nous y voir la réalité d'une création qui est elle aussi tout entière marquée par les conséquences du péché. Et c'est Paul qui disait un peu ça dans la lettre qu'il écrit aux Romains. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Ou alors peut-être pourrons-nous penser, comme C.S. Lewis le faisait aussi, que Dieu ne pouvait pas créer, c'est C.S. Lewis qui parle, ne pouvait pas créer une société d'êtres libres sans en même temps créer une nature relativement indépendante et inexorable. Ce dont la société humaine a besoin, poursuivait-il, c'est exactement ce qu'elle a, quelque chose de neutre régi par ses propres lois. Si nous habitions un monde dans lequel Dieu empêcherait toute forme de malheur de se produire, alors il serait impossible de mener une activité libre et responsable. Et en cela, il rejoignait un petit peu la pensée d'Alexis Masson qu'on a lue tout à l'heure. Mais, il nous faut bien le reconnaître, nous voici quand même ici devant des choses qui nous dépassent complètement. Devant des explications qui ne sont pas vraiment satisfaisantes et que l'on accepte sans doute un peu par défaut, ou qu'on n'accepte pas du tout d'ailleurs. Et ce fut d'ailleurs le cas de Job, devant sa souffrance, qu'il considère comme étant une totale injustice, et qui se fâche, et qui réclame des comptes à Dieu. Une démarche vigoureuse de Job, que Dieu n'approuvera pas, bien qu'il lui fera à terme moins de reproches à lui pour ses plaintes qu'à ses amis pour leurs explications boiteuses. Mais alors donc, comment réagir? Que répondre face à la souffrance? On s'en doute, depuis les millénaires qu'elle existe, de nombreuses tentatives de réponse ont été apportées. Je vous en donne juste quelques-unes. Celle du stoïcisme, par exemple. Je cite « Pour vivre heureux et libre, il ne faut pas lutter en vain contre ce qui ne dépend pas de nous, mais au contraire l'accepter et nous abstenir des vices et passions qui nous y exposent. » Une sorte de résignation. Ou alors celle des épicuriens qui prétendent, je cite, « qu'on peut supporter la souffrance ». Bien sûr. Tout d'abord en se rappelant qu'une souffrance extrême ne dure pas, puis ensuite en la compensant avec la représentation d'un plaisir passé ou futur. Facile. Ou bien encore, plus proche de nous, les existentialistes qui clament que de toute façon, ni la vie, ni la mort, ni la souffrance n'ont de sens, tout est absurde. Une fois qu'on a dit ça, ça va mieux. Beaucoup de réponses possibles à la souffrance. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas vous si elle vous apaise. Moi, ce n'est pas vraiment le cas. Dieu fait-il mieux que les philosophes? Dieu a-t-il une meilleure réponse face à la souffrance ou devons-nous nous résigner devant ces réalités? Dieu, qui, on l'a dit, n'explique pas les causes de la souffrance, a-t-il quand même quelque chose à en dire? Dieu a-t-il une réponse? Eh bien, je pense que oui. Et c'est ce que nous voulons essayer de voir maintenant. Et je vous propose de retourner dans un premier temps dans le livre de Job. Parce qu'après tout, Dieu a quand même donné une réponse à Job. Ce n'était pas celle qu'il attendait, puisqu'il ne lui a pas dit le pourquoi. Mais finalement, elle a quand même eu l'air de le satisfaire, cette réponse à Job. Lui qui pourtant avait souffert outre mesure. On peut donc imaginer qu'elle a quand même une certaine pertinence. Alors je ne vais pas la lire en entier parce qu'elle est un peu longue. Ceux qui ne la connaissent pas encore pourront regarder les chapitres 38, 39, 40, 41 du livre de Job. Mais je vous en lis quelques extraits, le début en fait. Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, Job. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin et assigné sa place à l'aube pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle en secoue les méchants? Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers? Ou t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles paru devant toi? As-tu vu les accès du royaume des ombres? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Dis-le si tu sais tout cela. De quel côté est le chemin vers le séjour de la lumière? Et les ténèbres, où donc ont-elles leur demeure? Tu dois connaître tout cela, puisque tu étais déjà né et que tes jours sont si nombreux. Pardon. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations à leur temps? Conduis-tu la grande ourse et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Te suffit-il d'ordonner aux nuages pour que des trompes d'eau se déversent sur toi? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce discours, ou ce monologue, continue un long moment. Une réponse étonnante, n'est-ce pas ? Pas très consensuelle en tout cas. Dieu répond à Job en le harcelant de questions. Alors, dans quel but fait-il cela ? Eh bien, sans doute pour lui montrer qu'il est Dieu et que Job, lui, ne l'est pas. En rappelant ainsi les merveilles de sa création, Dieu montre à Job que lui et lui seul sait ce qu'il fait et qu'il maîtrise toutes choses, même celles qui nous dépassent. Et ainsi, implicitement, il lui lance un appel en la confiance. Confiance dans la souveraineté de Dieu. Confiance devant la sagesse insondable de Dieu. Un appel à la confiance, même devant le pire et l'inexplicable. Pas facile. Mais Job sera satisfait de cette réponse. Et on le lit au dernier chapitre, c'est intéressant de le lire. Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. J'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Une acceptation pas facile. Mais Job faisait assez confiance à Dieu pour cela. Ce n'est pas aller sans combat, bien sûr. Mais pour faire une telle démarche de foi malgré tout, entre guillemets, il nous faudra sans doute accepter de croire que l'amour de Dieu pour nous prévaut, malgré tout, justement, au-delà même de l'épreuve. Job a accepté de croire cela. Et nous, à combien plus forte raison, je me dis que nous pouvons peut-être aussi le faire, car nous savons de manière plus précise que Job, en fait, que l'amour de Dieu pour nous est la première de ses priorités. L'amour de Dieu pour nous, manifesté à la croix, bien sûr, nous pousse à lui faire confiance devant les choses qui nous échappent. Même devant cette souffrance qui fait mal, et qui, rappelons-le, n'est pas le désir de Dieu, mais qu'il permet néanmoins. Garder confiance dans la souveraineté de Dieu, voici une première réponse. Et on pourrait s'arrêter ici. Job s'est arrêté ici. Mais je crois qu'en fait, il y a encore plus. Job s'est contenté de cela, quelque part, mais nous, avec la progression de la révélation biblique, nous avons la possibilité de pouvoir aller plus loin. Nous pouvons encore rajouter quelque chose à cette réponse de Dieu, et pas juste un détail, mais plutôt une chose qui, je l'espère pour moi comme pour vous, aura vocation à bouleverser toute notre conception de cette question de la souffrance. Et pour cela, retournons un instant à la croix et essayons de mesurer ce qu'il s'y est passé. Parce que la croix nous dit quelque chose de plus sur ce rapport entre Dieu et la souffrance. Car à la croix, c'est Dieu qui souffre. Il souffre même terriblement. Moi, je trouve cela tellement inconcevable. Nous avons présenté Dieu comme un être souverain, tellement au-dessus de tout, tellement au-dessus de nous. Il est un être fondamentalement bon par nature. Et de notre côté, nous avons présenté la souffrance comme fondamentalement mauvaise en soi. Et là, nous sommes en train de dire que la souffrance, que le mal donc, touche Dieu. À la croix, nous constatons que Dieu accepte que quelque chose de mauvais vienne l'atteindre à lui. En permettant, juste par amour et par souci de liberté envers nous, que la souffrance existe, Dieu a permis qu'il en devienne, par voie de conséquence, lui aussi, la victime. La souffrance frappe Dieu comme elle nous frappe. Dieu n'a pas seulement accepté la possibilité de la souffrance pour nous, mais il l'a aussi acceptée pour lui, juste donc pour notre bien supérieur d'amour et de liberté. Et pourquoi cela est à même de venir bouleverser notre conception des choses ? parce que cela vient réduire en miettes l'idée d'un Dieu indifférent à nos souffrances, couché sur un transat et occupé à regarder le monde se débattre dans son malheur. La croix vient réduire à néant cette horrible caricature. Dieu souffre, il souffre tellement à cause de nous. Et tout au long de la Bible, d'ailleurs, c'est quelque chose qui transparaît. Au temps du déluge, par exemple, quand par la voix de Noé, il implore les hommes de changer, la parole nous dit qu'il a son cœur affligé. Ou encore envers Israël, plus tard, et son infidélité chronique, il s'écrit « Comment pourrais-je t'abandonner? Comment pourrais-je te livrer? Mon cœur est tout bouleversé, toutes mes entrailles s'émeuvent. » Les mots sont forts. Et sur la croix, en Jésus-Christ, Dieu atteint le paroxysme de la souffrance, en portant le poids de nos fautes, en portant le poids de nos souffrances, justement. Lui, le souverain bien, touché de plein fouet par le mal. Le célèbre passage d'Ésaïe 53 nous le rappelle de manière tellement crue. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je le crois sincèrement, voilà la seule vraie réponse qui existe face à la souffrance. C'est la croix. C'est Dieu qui souffre, lui, le seul être qui n'aurait jamais dû être atteint. John Stott, dans un livre qu'il écrit sur la croix, nous rappelle cela dans un extrait assez fort. « S'il n'y avait pas eu la croix, dit John Stott, mais jamais je n'aurais pu croire en Dieu. Dans notre monde de souffrance, comment pourrait-on adorer un Dieu qui en est exempt. » Et il continue. « Je suis entré maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie et j'ai pu contempler la statue de Bouddha. Les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté, portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées traduisant une soif intolérable, plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon de Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. À la lumière des siennes, nos souffrances sont plus faciles à accepter. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Voilà le Dieu qu'il me faut. Voilà le Dieu qu'il te faut, toi qui souffres. Dieu a laissé de côté son immunité à la souffrance pour entrer dans ton monde de larmes et de mort. Et ça, ça change tout. Quelle est donc la réponse que nous laisse la Bible à cette question, aujourd'hui et pour tous les jours? Au cœur des épreuves, fais confiance, attache-toi, repose-toi encore et toujours sur ce Dieu si familier de la souffrance. Parce que nous n'aurons pas d'explication. Le point d'interrogation restera toujours le signe de ponctuation le plus adapté à la souffrance. Ça ne pourra pas être le point final, parce que le mal demande explication. Mais ça ne pourra pas être non plus le deux points à la ligne, parce que nous ne l'avons pas, nous, cette explication. Ce sera donc un point d'interrogation. Mais à celui-ci, n'oublions jamais que nous pourrons toujours en superposer un autre signe. celui de la croix, où nous contemplons à l'infini ce Dieu qui partage nos souffrances, ce Dieu qui prend nos souffrances. Oui, que cette vision soit pour nous le signe de la plus grande des consolations, qu'elle soit aussi le signe de la plus belle des espérances, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.